Et vous voulez comprendre?
Oh, pas de problème. Je comprends toujours vite quand on m'explique longtemps. Donnez-moi la force de comprendre,
car ces visions me sortent. Bon, Martin Carlier, tu nous disais sur la scène scientifique, oui. la chose, la principale, c'est un événement qui a été très, très marquant cette
Vraiment.
Semaine. Collision d'étoiles à neutrons visible oui. par des astronomes.
Oui, et le côté marquant de la chose, c'est que ça a été, on l'a pas juste ressenti de par les ondes gravitationnelles que l'événement a entraîné, a ouais. causé, a produit, mais on l'a aussi vu carrément avec d'autres instruments. Donc, pas seulement les détecteurs d'ondes gravitationnelles sur la Terre nous ont permis de voir ça. En fait, on parle ici d'un événement qui serait produit le 17 août dernier. Lorsqu'on parle de nouvelles de cette ampleur-là, finalement, il y a plein d'analyses à faire, il y a plein de vérifications, de contre-vérifications à faire. C'est pour ça que, même si ça s'est produit le 17 août, on a révélé que on avait vu ça il y a quelques jours à peine. Là. Donc, il y a toujours un certain délai entre le moment où on dévoile cette nouvelle-là et où on en a été témoin, finalement. Donc, c'est quelque chose qui s'est produit, qui a été perçu le 17 août. Pour mettre un peu les gens en contexte, il faut savoir que quatre fois au cours des deux dernières années, on a perçu des ondes gravitationnelles, donc ces fameuses vibrations affectant tout l'espace-temps, finalement, oui. dans lequel on se trouve, et qui sont détectables grâce à deux immenses détecteurs, en fait trois. Il y en a deux jumeaux qui sont aux États-Unis, puis il y en a un en Italie qui fonctionnait lui aussi. Donc aux États-Unis, ce sont les observatoires LIGO, et on a le Virgo qui est en Italie, qui a été construit et qui est fonctionnel aussi. Et donc on peut percevoir les ondes gravitationnelles grâce à ces observatoires-là. Et ça, on en a même parlé la semaine passée. Cette technologie-là a été récompensée du prix Nobel
ouais,
il y a quelques jours à peine. Eh bien, cette fois-ci, pour la cinquième fois, on a bien entendu détecté des ondes gravitationnelles suite à cette collision d'étoiles à neutrons. Mais en plus, on a eu toutes sortes d'observations visibles avec nos technologies, donc les autres types de technologies sur la Terre, les télescopes qu'on a. Là.
Et pourquoi tu précises étoile à neutrons versus une étoile une étoile, c'est quoi la différence?
En fait, une étoile à neutrons, c'est une étoile qui est en fin de vie et qui est extrêmement dense. Donc, le noyau est composé essentiellement de neutrons. Des neutrons okay. qui sont des particules élémentaires au niveau du noyau des atomes. Et donc, c'est un type d'étoile. Là, on parle d'étoiles ici qui étaient... si on remet en contexte, les premières ondes gravitationnelles étaient associées à la collision de trous noirs gigantesques, là, énormes. Et là, on voulait voir qu'est-ce qui se produirait. Le problème, quand deux... Je fais un peu du coq à l'âne, mais bon. Quand deux trous noirs se frappent, eh bien, on peut percevoir les ondes gravitationnelles, mais on peut pas, il va pas avoir projection de débris dans l'espace.
Non.
Lorsque deux étoiles à neutrons se frappent, eh bien, non seulement il y a les ondes gravitationnelles, mais il y a aussi des débris qui vont être projetés dans toutes les directions de l'espace. Et ces débris qui se déplacent, qui sont expulsés, vont aussi s'accompagner d'une certaine forme de lumière qui pourrait être perceptible. C'est pour ça qu'ici, on a quelque chose de nouveau. Premièrement, on avait des étoiles qui étaient plus petites que les trous noirs qui sont cognés. Donc, on parle d'étoiles qui était à peine un peu plus grosse que notre Soleil à nous. Donc, une étoile qui était 1,1 fois la grosseur du Soleil et une autre de 1,6 fois la grosseur du Soleil qui se sont cognées. Ça, c'est un, donc plus petit de un. Deuxièmement, il y a des débris qui ont été émis dans toutes les directions qui sont accompagnés de différents types d'ondes. Et donc, on a été capable, après avoir détecté les ondes gravitationnelles, on a été capable de pointer... Donc, d'identifier ça venait d'où dans l'espace et de pointer nos télescopes en direction de cette partie-là de l'espace. Et là, avec nos télescopes différents, on a vu des rayons gamma. On a vu aussi carrément de la lumière de couleur bleue qui est passée au rouge sur une période de 2 semaines. Et on a vu aussi, par la suite, l'émission de rayons X et d'ondes radio. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on est capable de percevoir avec la technologie qu'on avait déjà ici au niveau de notre arsenal astronomique, si on veut.
Et ça s'est passé à quelle distance, si on est capable de quantifier ça, j'imagine?
Oui, probablement. Ça, c'est malheureusement pas une information que j'ai. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la différence, et pourquoi c'est un événement extraordinaire, c'est que la différence entre ce qui s'est passé avant, donc les autres fois, on a perçu des ondes gravitationnelles et maintenant, avant, on parlait de quelques secondes seulement où on percevait l'onde gravitationnelle.
Et là, tu parles de 2 semaines.
Ici, oui. Mais les ondes gravitationnelles comme telles, on les a perçues pendant plus de 100 secondes. Donc, presque 2 minutes, on a eu ce phénomène-là qui était détectable sur Terre de 1. Deuxièmement, on avait des étoiles plus petites. Donc, ça, c'était franchement intéressant. Et troisièmement, ce qui est le fun ici, c'est que chacun de ces chaque caractéristique de cet événement-là va nous constituer une avancée scientifique énorme. Donc le fait de pouvoir voir caractériser un phénomène qui émet des rayons gamma comme ça dans l'espace, c'est intéressant et ainsi de suite. Donc on a plein d'avancées au niveau de l'astronomie, au niveau de l'astrophysique qui vont découler de ça. C'est franchement une découverte extraordinaire et c'est franchement quelque chose dont on risque de parler pendant un petit bout de temps.
On va revenir dans un instant en se parlant de la disparition d'insectes en Allemagne. C'est une nouvelle qui est inquiétante. 10h51 avec Martin Carly. Disparition d'insectes en Allemagne.
Oui, absolument. Je sais qu'on met souvent la loupe sur les abeilles, bien entendu, parce que l'abeille a la sympathie de tout le monde pour bien des raisons. C'est un bel animal. On associe toutes sortes de qualités au travail de l'abeille, le travail plus monastique de la fabrication du miel et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup
son rôle dans la pollinisation.
C'est ça. Il y a bien des manières d'aimer l'abeille, finalement. Tu sais, c'est un animal qui a beaucoup de sympathie. Mais là, ce qu'on observe, c'est que c'est pas juste les abeilles qui sont dans le trouble. En fait, c'est les insectes en général. Et là, ça nous vient d'une étude qui a été faite en Allemagne grâce à une société d'entomologie près de Düsseldorf qui, depuis 27 ans, suit des groupes d'insectes volants dans des réserves naturelles. Donc, essentiellement, ils attrapent des insectes pour les étudier, ainsi de suite. Mais là, ils se sont rendus compte que sur cette période de 27 ans-là, donc on parle presque de 3 décennies, bien, la quantité d'insectes attrapés pour faire leurs différentes études, a chuté de façon dramatique. Ils se sont rendus compte que c'est en été, alors que les populations d'insectes sont à leur maximum, c'est le pic de la population des insectes en été, eh bien, la biomasse, donc la quantité ou la masse de tissu biologique, si on veut, là, de tous ces insectes-là mis ensemble, a chuté de 82%.
C'est énorme.
82%. Et là, on parle de n'importe quel insecte. Là. C'est
imagine des mouches, aux papillons, si on disait là, dans n'importe quel, chez les mammifères. Il y a 82% des mammifères qui ont disparu. Ben, on commence à s'inquiéter.
Ben, mettons, oui, absolument. Donc, dans ce cas-ci, c'est absolument dramatique. Et ils ont tenté d'expliquer, de trouver une certaine cause. Eh bien, on n'a pas été capable de faire une relation entre des changements au niveau météorologique. Donc, c'est pas nécessairement les changements climatiques qui sont en cause. Une modification des paysages, une modification de la couverture végétale. Donc, est-ce que tout ça a pu influencer? On n'a pas de lien entre ça. Donc, ce qu'on soupçonne, encore une fois, c'est une hypothèse qu'il va falloir vérifier. Ce qu'on soupçonne, c'est l'agriculture intensive qui se fait autour de ces réserves naturelles-là. Donc, le fait d'utiliser un paquet de techniques, de la monoculture, des insecticides et ainsi de suite, ça pourrait avoir eu son effet. Et là, oui, les abeilles servent à la pollinisation, mais il n'y a pas juste les abeilles qui servent à polliniser. Là, on se retrouve avec une situation vraiment catastrophique, vraiment.
Pas beaucoup d'effets positifs à la monoculture en général.
En général, non. Non, vraiment pas. Dans le cas des abeilles, on le savait. Là, on se rend compte que c'est beaucoup plus généralisé que ça. Donc, les interventions devraient être beaucoup plus urgentes. Toutes les initiatives pour essayer de préserver tous ces insectes-là sont importantes parce que ça a beaucoup d'impact. Ça a de l'impact sur nous parce que la pollinisation permet de créer toutes sortes d'aliments qu'on aime. En passant, la pollinisation, ça sert à faire pousser des aliments qu'on adore, que ce soit les fruits des champs, que ce soit les noix, et ainsi de suite, le chocolat, et ainsi de suite, peu importe. Mais pas juste genre le brocoli, là, on va s'entendre. Vous pensez qu'on va perdre les légumes qu'on aime le moins, oubliez ça, on va perdre ce qu'on aime le plus avec la pollinisation qui descend. De un, puis deuxièmement, ça a un impact sur tous les autres écosystèmes, par exemple les oiseaux qui ont moins d'insectes à manger, les populations d'oiseaux diminuent. C'est vraiment pas une bonne nouvelle.
Et en même temps, il y a des insecticides dans le miel. Je ne sais pas si on a le temps de l'aborder.
Oui, absolument. En quelques secondes, il faut savoir que des chercheurs ont fait l'inventaire de la quantité d'insecticides qu'on retrouve dans des échantillons de miel partout sur la planète. Eh bien, on en retrouve de plus en plus. Les chiffres les plus spectaculaires, en Amérique du Nord, on retrouve des traces d'insecticides dans plus de 86% des échantillons de miel, imaginez. Et en Amérique du Sud, c'est 57%. Dans un tiers des échantillons, on retrouve des concentrations qui sont dommageables pour les animaux. Donc, essentiellement, là, ces abeilles-là, ben, essentiellement, sont exposées à des concentrations d'insecticides qui peuvent les tuer dans le tiers des cas. Ben là, on s'entend qu'en...
Ailleurs, en
voilà, fait. Absolument.
Dans la
parce
chaîne
qu'ils,
alimentaire.
Ils boivent aussi, ils s'alimentent aux fleurs. Puis si en même temps, ils prennent des insecticides, ben ça peut les tuer, les désorienter. C'était vraiment une catastrophe.
Martin Carly, merci. À samedi prochain.
Absolument.
Si vous avez manqué cet extrait ou qu'importe l'extrait de notre émission, ce sera disponible sur la page de Weekend Extra, sur le site web de la station que vous écoutez ou par Cogeco Live. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Dans un instant, vice-versa pour les auditeurs de Montréal et pour Trois-Rivières et Sherbrooke, c'est Fan de musique. Bye-bye!